Nous avons pris les mesures aujourd'hui basées sur l'évolution du virus.
Oui, c'est trop rapide.
Le meilleur choix que le gouvernement jamais a pu faire.
La pandémie a eu un effet de refermer sur elle-même des familles qui étaient déjà vulnérables à l'avance.
Bonne fin de journée, tout le monde. C'est une nouvelle qui va certainement changer les plans de vacances de bien des Canadiens. Ce sera peut-être votre cas. Ottawa a confirmé ce midi la fin de la vaccination obligatoire pour les voyages en train et en avion. On parle des voyages à l'intérieur du Canada, donc les voyages domestiques. Pour ce qui est du tourisme international, ben, il n'y a pas de changement pour ceux qui veulent venir au Canada. Ils vont devoir être vaccinés. Et pour les Canadiens qui veulent aller se la couler douce peut-être dans le sud ou en Europe, bien là, ça dépend de la destination. Louis-Philippe Bourdeau fait le point là-dessus.
Si vous avez voyagé au cours des derniers mois, vous avez probablement constaté parfois des files d'attente interminables à l'aéroport parce que les employés des compagnies aériennes devaient vérifier le statut vaccinal de tous les voyageurs, et ça depuis le 30 octobre dernier. C'est une mesure qui avait été vertement critiquée par l'opposition conservatrice à Ottawa, mais aussi par le milieu touristique.
Les passeports vaccinaux ont été levés partout au pays, sauf pour prendre l'avion, pour travailler au gouvernement fédéral ou pour entrer dans les édifices de ce Parlement.
Eh bien, 8 mois plus tard, ce sera bientôt la fin de cette obligation au cours des prochains jours pour les vols intérieurs, les passagers internationaux qui quittent le pays, mais aussi les passagers du réseau ferroviaire canadien.
Nous avons pris les mesures aujourd'hui basées sur l'avis scientifique, l'évolution du virus.
Les voyageurs doivent continuer de porter un masque dans les avions et le train.
Le gouvernement fédéral va annoncer la fin de l'obligation vaccinale pour...
Oui, heureusement. Avec tous ces papiers-là et tous ces... Pour nous, les âgés, c'est difficile pour nous.
Et vous n'êtes pas nerveux d'être dans un avion avec des gens qui ne seraient pas vaccinés? C'est un espace qui est quand même petit.
Oui, non, non, pas du tout. On est déjà protégés. On a notre masque.
Moi, je trouve que c'est rapide, là. Je comprends qu'il y a de la pression des commerçants ou de l'industrie du tourisme, mais... Je suis pas sûre que c'est une bonne idée, puisque c'est fermé dans l'avion.
Oui, c'est trop rapide, puis c'est de minimiser le problème, là, parce qu'on n'en parle plus de combien il y a d'hospitalisation, puis de gens aux soins intensifs, puis de décès.
Ça doit être le meilleur choix que le gouvernement jamais a pu faire.
Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun presque partout au Canada dans une question de jours. Pourquoi le garder obligatoire dans les trains et les avions?
C'est qu'il s'agit, selon la santé publique, d'une mesure à la fois efficace et peu coûteuse, qui s'ajoute aux autres mesures de santé publique qui servent à protéger les gens.
Attention, par contre, il y a encore plusieurs pays dans le monde qui continuent de demander une preuve vaccinale, donc il faudra continuer à s'informer avant de voyager. Donc, avec la fin de cette obligation fédérale, la fin du port du masque obligatoire dans les transports en commun au Québec dès ce week-end, bien, les mesures sanitaires seront bientôt chose du passé pour une bonne partie de la population.
Alors oui, normal qu'on fasse cette traverse-là vers où il y aura encore moins de contrôle, mais je dirais aux gens de continuer, moi, de continuer à se protéger dans des endroits où les gens sont moins confortables, notamment dans les lieux publics.
Il importe de souligner que la COVID est toujours là, qu'il y a toujours de la transmission. Plusieurs ont l'impression que la COVID n'existe plus, qu'elle a pris une pause et qu'elle reviendrait éventuellement. Elle est toujours là. Donc, on invite à une certaine vigilance.
Il faut rappeler qu'en imposant la vaccination obligatoire aux voyageurs dans les aéroports, dans les trains, dans les avions, le gouvernement fédéral voulait inciter les Canadiens à aller se faire vacciner, à obtenir une dose de rappel. Eh bien, au pays, en ce moment, il y a environ 82 % de la population qui est adéquatement vaccinée. Mais pour la dose de rappel, c'est à peine un Canadien sur deux qui est allé la chercher.
La COVID-19 va être avec nous à l'automne. Et que peu importe que ce soit le variant Omicron ou d'autres variants, la meilleure façon de se protéger, c'est d'avoir une vaccination à jour. Une vaccination à jour, pour la grande majorité des Québécois, c'est une vaccination à 3 doses.
Docteur Cécile Tremblay est avec nous. Bonsoir, Docteur Tremblay.
Bonsoir, Monsieur Bérard.
Bien sûr, je le rappelle, microbiologiste, infectiologue au CHUM. Alors, est-ce que c'est trop rapide ou est-ce que c'est la meilleure idée du monde, comme on a presque entendu dans le reportage?
Bien, je pense que ça correspond à l'évolution de l'épidémie. On sait que présentement, avoir deux doses de vaccin, ça ne nous protège pas contre être infecté par le variant Omicron. Ça nous protège contre la maladie sévère, l'hospitalisation et le décès dans une grande partie des cas. Mais l'utiliser comme un outil de santé publique pour empêcher la transmission à l'intérieur d'un avion, c'est un peu dépassé par rapport à la situation actuelle des variants que l'on connaît. Donc, ça fait du sens d'enlever cette obligation-là pour l'instant.
Et on garde le masque là, quand même là, à l'intérieur de l'avion, à l'intérieur des trains. Ça, c'est une bonne chose?
Moi, je pense que oui, parce qu'il y a encore beaucoup de virus qui circulent, bien que les gens ne veulent pas le voir parce qu'ils veulent penser que c'est terminé, mais ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a une recrudescence légère, mais perceptible des cas, et ça correspond au relâchement de l'ensemble des mesures sanitaires, ce à quoi on s'attendait.
Bon, donc, ce que je comprends, c'est qu'on est rendu là, et là, il faut faire avec, comme on dit. Je vais vous amener sur un autre sujet d'abord, où là, on se demande où on est rendu, c'est concernant la variole simienne. La santé publique a parlé de 132 cas déclarés au Québec, 126 à Montréal, qui serait devenu donc l'épicentre de la maladie en Amérique du Nord. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas?
Bien, en fait, on doit surtout prendre ça au sérieux et je crois que c'est fait par la santé publique de Montréal, c'est-à-dire qu'on voit une transmission dans certaines communautés du centre-ville de Montréal, des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, malheureusement parce que le virus s'est introduit dans cette population-là, il aurait pu s'introduire dans d'autres populations, mais c'est ce qui a été fait. Alors là, on vaccine les contacts de ces gens-là pour les protéger et essayer de couper la chaîne de transmission. Et si on est proactif, et on l'est, à mon avis, on devrait voir un impact d'ici un mois, probablement.
Bon, vous le dites, en effet, on parle de cas. 100% des cas qui sont confirmés en ce moment, on nous dit du côté de la santé publique, ce sont des hommes qui ont eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. Mais on nous dit que ça ne se transmettrait pas par les gouttelettes. La docteure Drouin qui disait en point de presse que le risque, qu'il y avait quand même un risque par contact peau à peau et même par vêtement ou en contact avec des draps de quelqu'un de contaminé. C'est... Bon, ça nous a mêlé un peu quand on a entendu ça ce midi. On s'est dit, cet après-midi, on s'est dit, est-ce que ça veut dire qu'il va commencer à avoir de la contamination hors relation sexuelle?
Mais en fait, vous avez tout à fait raison que ce n'est pas une maladie transmissible sexuellement. Si la lésion s'adonne à être au niveau des organes génitaux, oui, elle se transmet de cette façon-là. Si elle est sur le bras, elle va se transmettre en touchant le bras ou la lésion. Donc, c'est une maladie qui se transmet par contact direct avec la lésion qui est infectée. Et oui, avec les draps, les vêtements, des gens qui auraient des pustules infectées puis qui couleraient. Donc, c'est quand même local, ça prend quand même un contact étroit. Et il y a une possibilité de transmission par gouttelette respiratoire. C'est la même chose que la variole dans l'ancien temps, qui avait décimé des populations entières, mais maintenant, on a des vaccins puis on a des traitements qu'on peut offrir aux gens qui sont atteints. Donc, on ne s'inquiète pas que ça devienne une épidémie très, très répandue dans l'ensemble de la population, si on est capable de garder le contrôle sur la situation présentement, comme on le fait.
Il y a plus d'en terminant, il y a plus de 3 000 personnes à risque qui ont été vaccinées jusqu'à maintenant sur 40 000 doses disponibles. Est-ce que c'est une bonne idée, justement, une solution d'élargir la vaccination au-delà des cas contacts de variole en ce moment?
Étant donné que c'est difficile à bien identifier qui est un cas contact, oui, c'est une bonne idée d'élargir à tous ceux qui se retrouvent un peu dans cette communauté-là et qui risqueraient d'avoir été, sans le savoir, en contact avec quelqu'un qui était infecté.
Alors, bien, on va suivre la situation. On voit qu'on en savait très peu hein, sur cette maladie-là. En terminant, en une seconde, dites-moi, le vaccin que les gens ont reçu, la variole, les plus vieux, parce qu'on sait que c'est plus un vaccin qui est donné depuis des décennies, là, est-ce que ça... Vous l'avez? Vous avez le tatou, j'imagine, sur le bras, parce que c'est un vaccin qui marquait quand même beaucoup, il faut le dire, pour les plus jeunes. Ça nous protège pour contre la variole du singe, simienne?
On n'a pas vraiment de bonne étude qui nous permet de déterminer s'il y a une protection partielle totale quand on a eu le vaccin il y a 50 ans. Donc, il est à penser, dans le temps, quand on vaccinait contre la variole, ça protégeait à vie, on disait. Mais là, c'est un peu difficile évaluer correctement s'il y a une protection de l'ancien vaccin quand ça fait très, très, très longtemps.
Donc, on ne prend pas de risque, puis ceux qui sont à risque sont mieux d'aller se faire revacciner. Oui. Merci beaucoup, Dr. Tremblay. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. La Direction de la protection de la jeunesse a présenté son bilan annuel aujourd'hui pour toutes les régions au Québec et c'est vraiment pas reluisant. La DPJ a connu une hausse du nombre de signalements dans toute la province. C'est une tendance qui est remarquée depuis plusieurs années. On en parle avec mon collègue Simon Bourassa. Salut Simon.
Salut Michel.
Alors un premier constat, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants ayant besoin des services de la DPJ qui se retrouvent trop souvent sur une liste d'attente.
On réussit à répondre dans des délais raisonnables aux codes 1 et 2, c'est-à-dire les situations les plus urgentes où des enfants ont besoin d'assistance, ont besoin des services de la DPJ. Mais dès qu'on dépasse ces codes 1 et 2-là, les cas les moins urgents, bien là, aussitôt, on a recours à la liste d'attente. On parlait d'une hausse des signalements pour la dernière année. On parle de 132 632 signalements pour 21-22. C'est 12,5 d'augmentation par rapport à l'an dernier. Pour vous donner une idée, là, 363 situations sont signalées chaque jour au Québec à la Direction de la protection de la jeunesse. Ce qu'on a dit aujourd'hui là, sur le plan national, bien, c'est que c'est une hausse effectivement qui touche à peu près toutes les régions, à l'exception de la Capitale-Nationale, où il y a une légère baisse. Maintenant, ce qu'on arrive moins à déterminer, c'est est-ce qu'il y a une hausse des cas de signalement parce qu'il y a plus de violences faites aux enfants ou de maltraitance, ou c'est parce que les gens sont plus attentifs à ce qui se passe dans leur entourage et donc font des signalements plus qu'ils n'en faisaient auparavant. Ça demeure à déterminer. Vous allez entendre la directrice de la protection de la jeunesse du Québec qui nous parle de signalement de cas d'enfants qui sont de plus en plus jeunes.
Des enfants pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse avaient moins de 12 ans. C'est quand même un chiffre à retenir, puisque les efforts qui ont été mis cette année, c'est surtout de se rapprocher de nos milieux scolaires, de nos services de garde, pour assurer là, qu'on a la réponse en temps opportun pendant que les problèmes sont encore petits et pendant que les enfants sont encore petits aussi.
Bon, et Simon, le syndicat a lancé un cri du cœur. Les ressources manquent et le personnel là, est débordé. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement, là?
Oui, bien, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux qui représente les intervenantes, intervenants, psychosociaux, donc éducateurs, éducatrices spécialisées qui travaillent dans les centres jeunesse, qui, eux, disent, écoutez, il manque énormément de personnes. Il manque au total, au Québec, 900 personnes dans le réseau de la DPJ. 300 postes à combler uniquement pour les centres jeunesse dans la région de Montréal. Donc, c'est énorme. On n'arrive pas à traiter les dossiers à temps. Il y a des délais. Et ça cause des problèmes d'ordre psychologique et personnel à ces gens-là, à ces personnes qui interviennent auprès des enfants. Je vous laisse entendre, sans plus tarder, là, une intervenante en centre jeunesse ainsi qu'un représentant de la PTS. Ça va nous donner une bonne idée.
Pendant ces 9 mois-là ou 6 mois-là ou 1 an-là, il n'y a aucune intervenante qui va dans le milieu voir l'enfant. Personne. Ou une fois peut-être, mais c'est tout. Il n'y a pas de service. Ces parents-là n'ont pas d'accompagnement, cet enfant-là non plus. On met en échec ces parents-là, c'est ça qui se passe.
Tu sais, il y a des enfants puis des familles qui ont besoin d'une intensité de service, qui auraient besoin peut-être de 2-3 visites semaine, mais que l'intervenante est en surcharge de travail, peut seulement en donner une par mois. Ça, on le voit fréquemment, puis c'est partout au Québec.
Donc, en terminant, depuis le dépôt du rapport Laurent, selon la PTS, la situation qui ne s'est pas améliorée, elle s'est même à certains égards dégradée.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Simon.
Au revoir.
Il y a encore beaucoup de rouge dans les indices boursiers après la dégringolade boursière d'hier. Ça a été un lundi difficile. Alors, voir ces placements en fonds comme neige au soleil, c'est loin d'être rassurant, surtout quand on voit nos dépenses augmenter, les taux d'intérêt nous faire craindre le pire. Alors, plusieurs vont commencer à s'intéresser un peu, peut-être un peu plus particulièrement à leur taux d'endettement. On en parle avec notre invité Pierre Fortin, et de chez Jean Fortin Associés, syndic en insolvabilité. Bonjour, bonsoir, M. Fortin.
Oui, bonsoir, M. Fortin.
Alors, le taux d'endettement, on s'en préoccupe pas souvent, je dois vous le dire. En tout cas, moi, je m'en préoccupe pas beaucoup, sauf quand c'est le temps de contracter un prêt, une hypothèque. Oui. Est-ce que, là, avec ce qui se passe présentement, et vous sentez l'inquiétude monter?
Effectivement, l'inquiétude est certainement là, mais pour bien des gens, des fois, c'est question d'avoir un portrait de la situation réelle. On saute dans un lac, on vérifie la température de l'eau avant. On veut faire un prêt, on veut faire un gros achat, une grosse dépense. Il va faudrait savoir dans quel état nos finances sont. Et pour ça, c'est de calculer son ratio d'endettement.
Bon, comment on peut calculer facilement notre endettement? Ouais. Il y a des formules, j'imagine, qui existent?
Il y a des outils. Les outils ne sont pas parfaits, mais le ratio d'endettement, c'est un outil qui porte bien son nom. C'est que c'est vraiment... c'est un outil qui est universel. Donc, c'est toutes les institutions financières s'en servent pour déterminer si vous êtes en mesure de contracter un nouveau prêt. L'idée, ce n'est pas d'en contracter un, mais ça vous donne une bonne idée sur l'échelle d'endettement, sur où est-ce que vous vous situez. Donc, pour ça... Oui. Donc, pour ça, on va calculer, dans le fond, on prend les frais d'habitation, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous coûte en hypothèque, en taxes, en frais de chauffage ou en loyer, en frais de chauffage, et on ajoute ensuite les coûts mensuels de nos dettes, donc le prêt auto, les prêts personnels, pour les cartes de crédit, les marges de crédit, c'est le paiement minimum, et on divise ça par son revenu brut. Et ça, ça va donner une idée aux banques, à savoir si la personne, si par exemple, elle est à 40 % ou plus, à ce moment-là, ils vont considérer qu'elle est dans un état de surendettement ou très proche d'eux. Et donc, à ce moment-là, on va dire, bien, écoutez, moi, on ne peut pas vous prêter plus d'argent parce que sinon, on ne vous rend pas service. On va faire en sorte, dans le fond, que vous allez vous serez pas capable d'assumer les paiements par la suite.
Regardons un exemple, par exemple, d'un taux d'endettement moyen pour un couple, là, par exemple, au Québec. Ça ressemble à quoi?
Écoutez, ça varie énormément, mais si vous regardez, là, pour quelqu'un qui gagne 60 000 $ par année, soit que ce soit deux salaires de 30 000 ou un total de
on a 80 000,
là, 80 000 sur le tableau. Donc, sur 80 000 avec une hypothèque de 300 000 à 3,5 % d'intérêt, avec une petite dette, une carte de crédit de 5 000 $ un prêt d'auto de 400 $ par mois... On est à la...
On est
à la limite. On est à la limite du 40
%. 39,5, c'est ça qui est sur le tableau.
Exactement.
Ce qu'il ne faut pas dépasser, c'est quoi? C'est 40
%. C'est 40 %. 40 au-delà duquel, soit que la banque peut vous demander un endosseur, peut vous demander des garanties supplémentaires.
Ça ne veut pas dire qu'on ne nous prêterait pas, là.
On demande davantage. Bien, peut-être à 40, 42, il peut avoir d'autres éléments. Peut-être si on a un excellent dossier de crédit, mais ce n'est pas nécessairement vous rendre service de faire ce prêt-là, parce que si on atteint la limite... je peux vous garantir que dans les années à venir, il n'y aura pas beaucoup de gâteries ni de voyages.
Bon, on va voir un portrait que je ne sais pas si ça, vous auriez votre approbation si vous étiez un prêteur. On regarde un salaire pour une personne seule de 60 000, hypothèque également de 300 000, habitation, là, on le voit là, sur le tableau. On parle d'un taux d'endettement de 45 %. Ça, c'est pas mal élevé. Ça ne passe pas à la banque.
Ça c'est élevé. Puis, tu sais, il y a différents facteurs. Quand le prêt est garanti par la SCHL, là, qui est la Société canadienne d'habitation et de logement, à ce moment-là, on permet des fois d'aller dans des taux plus élevés comme ceux-là. Mais comme je vous dis... Surtout pour contracter une hypothèque, on parle d'une obligation à long terme, on parle de plusieurs années, c'est la plus grosse dépense dans un budget. Si on va au maximum de notre capacité, c'est là qu'on court après le risque. Lorsqu'il y a des situations comme aujourd'hui où est-ce qu'on a un coût de vie qui est plus élevé, lorsqu'on a un taux d'intérêt qui est en augmentation et qui dit pas de coussin, dit que dès qu'il y a un imprévu, à ce moment-là, on risque de basculer en insolvabilité.
Bon, alors là, quand on regarde le portrait avec l'inflation, avec les coûts qui augmentent, ça veut dire que les dépenses fixes d'il y a un an, c'est plus les mêmes maintenant.
Non.
Donc, si ça continue comme ça, il y a des gens qui, chaque mois, s'endettent davantage. Et là, ça devient assez complexe et assez inquiétant. Oui. Quels sont vos conseils pour éviter l'endettement ou diminuer son endettement?
Oui, bien, ceux qui vont avoir le plus de difficultés à passer à travers la période actuelle, c'est ceux qui n'ont pas réussi pendant la pandémie à réduire leur crédit à la consommation, c'est-à-dire les cartes de crédit, les prêts personnels, les marges de crédit. Donc, pour ces gens-là, souvent, ces montants-là vont englober un 15-20 % du salaire net après impôt. Et c'est là que, si je vous disais demain matin, on enlève 20 % de votre salaire, c'est sûr que vous me diriez, bien, écoutez, je vais avoir de la misère à arriver. Donc, à ce moment-là, pour ces gens-là, c'est de trouver soit de dire, on refinance la maison pour baisser le coût en intérêt, soit qu'on prend un prêt de consolidation pour essayer d'éviter d'avoir des cartes de crédit à 20 % d'intérêt. Puis, ou sinon, proposition de consommateur qui peut au moins réduire l'endettement, c'est une entente avec les créanciers.
Quel conseil qu'on va suivre? Merci beaucoup, M. Fortin, d'avoir été avec nous.
Merci avec vous, M. Bérard. Au revoir.
Dans un instant, on vous ramène dans les coulisses. Enfin, on vous amène dans les coulisses de la Formule 1 et de l'arrivée des cargos des écuries dans un moment. Au 111e jour de guerre en Ukraine, les forces armées russes continuent leur progression, notamment à Severodonetsk, au Donbass, où les bombardements sont si violents qu'ils nous rappellent la situation qui a eu lieu pendant des semaines à Mariupol au début de la guerre. Pour faire le point, on joint la journaliste Tetiana Ogarkova, qui se trouve en banlieue de Kyiv. Bonsoir, Tetiana.
Bonsoir.
Kyiv, une ville qui revit. Vous êtes déplacé dans le pays au cours des derniers jours. Qu'est-ce qui vous a davantage marqué dans la région de Kyiv où vous trouvez?
Oui, en fait, si la capitale de l'Ukraine vit une vie quasi normale aujourd'hui, quasi normale, je veux dire qu'il y a toujours des alertes aériennes, il y a toujours cette peur qui persiste malgré tout. On voit des commerces qui sont là, on voit des terrasses, on voit de plus en plus d'habitants de Kyiv qui reviennent. Par contre, si on s'éloigne de quelques kilomètres de la capitale, 3-4 kilomètres à l'est, par exemple, région Brovary où je me trouve actuellement, il y a 27 villages qui ont été occupés au mois de mars. On les a visités avec plusieurs missions humanitaires en apportant justement de l'aide humanitaire aux plus démunis, c'est-à-dire aux gens qui ont perdu leur maison. On voit tout de suite les destructions, on voit des stations d'essence complètement démolies, on voit des maisons à ruines, pas toutes heureusement, mais il y en a plusieurs. On voit les traces de guerre qui sont encore malheureusement visibles. On voit des chars aussi brûlés. La plupart, heureusement, ont été déjà ramassés, mais on voit même aujourd'hui des chars russes brûlés qui se trouvent dans les villages. Et si on se déplace au nord... Oui?
Non, allez-y, allez-y, parce que j'allais dire ça, c'est pour Kyiv. Et les alentours, en fait, la banlieue de Kyiv, mais dans l'est de l'Ukraine et plus au nord, en tout cas, surtout dans l'est, actuellement, il y a une bataille très violente. Alors, on imagine que la situation est particulièrement critique là-bas.
Oui, j'ai voyagé à Kharkiv. J'ai pu voir de mes propres yeux à quoi ressemble cette deuxième grande ville en Ukraine. C'est une ville qui se trouve à 40 km de la frontière russe. Et donc, il y avait des démolitions, en fait, tout à fait importantes dans le quartier qui s'appelle Saltivka. On entend les tirs d'artillerie, en fait, assez importants tous les jours aujourd'hui à Kharkiv. Aujourd'hui, on nous informe en fait que l'armée russe essaie de progresser une fois de plus dans la région de Kharkiv. L'armée ukrainienne ne contrôle que 70% de cette région. Il y a non seulement des missiles, mais aussi l'artillerie qui arrive sur la ville et villages qui sont à côté de Kharkiv, en fait, jusqu'à justement ces dernières 24 heures, il y avait trois enfants blessés, notamment un bébé de 3 mois, un enfant de 11 ans et 17 ans. Il y avait aussi la maman de ce bébé de 35 ans qui a été morte suite à ce bombardement. En fait, ça arrive tous les jours. Mais si, bien sûr, si on regarde sur le Donbass, on regarde que, bien sûr, c'est un autre monde, puisque là, l'armée russe, elle emploie la tactique de la terre brûlée. C'est-à-dire, il y a le travail d'artillerie qui peut durer des heures, en fait, sans arrêt. En fait, ils essaient de tout détruire afin d'essayer d'envoyer les troupes dans les quartiers déjà démolis. On a vu les images de Roubijne qui n'existe presque plus. Roubijne qui était pris il y a plus d'un mois, en fait. On voit aujourd'hui les images de Severodonetsk où les combats sont extrêmement violents à ce moment-là. Et... il y a aussi la ville contrôlée par l'armée ukrainienne, Lysychansk, mais qui est aussi très largement détruite par l'armée russe, même si elle n'est pas contrôlée par les Russes. Donc,
Tatiana,
il y a beaucoup de destruction.
Vous avez parlé de Severodonetsk. Il y a un corridor humanitaire là, qui a été annoncé pour permettre à des civils de quitter la région. Donc, ça a été annoncé par les Russes. La question, c'est est-ce qu'il sera tenu, hein?
Donc on ne croit pas sur parole, une fois de plus, puisqu'il y avait plusieurs couloirs humanitaires à Mariupol qui n'ont pas fonctionné. Deuxièmement, ils annoncent le couloir qui mène vers la Russie. Et je tiens à rappeler que des dizaines de milliers d'Ukrainiens ont été déjà déportés de force. On appelle cela des déportations forcées, puisque bombarder les civils et organiser les couloirs humanitaires, entre guillemets, vers le territoire de pays agresseurs, c'est très cynique, en fait. Donc, l'armée russe, elle contrôle les quartiers résidentiels à Severodonetsk qui sont largement détruits.
Oui. Tatiana Ogarkova, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On comprend que la situation est toujours critique, entre autres dans le Donbass. Merci beaucoup. On refera le point bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.
L'actrice Amber Heard a brisé le silence concernant le verdict de son procès ultra-médiatisé contre son ex-conjoint, Johnny Depp. En entrevue au réseau américain NBC, elle a dit ne pas en vouloir au jury qui a accordé plus de 10 millions de dollars à l'acteur. Questionnée sur la véracité de son témoignage, Amber Heard affirme qu'elle a toujours dit la vérité.
Of course, to my dying day, we'll stand by every word of my testimony. We get the concept of free speech from the Greeks. My understanding of what that means is not just the freedom to speak. It's a freedom to speak truth to power.
The truth is the word.
Yes.
And that was the issue.
And that's all I spoke. And I spoke it to power, and I paid the price.
Et le milliardaire Elon Musk va rencontrer pour la première fois les employés de Twitter jeudi. Selon le site Business Insider, les salariés pourront lui poser des questions. Elon Musk a déposé en avril une offre d'acquisition de 44 milliards de dollars pour mettre la main sur le réseau social. L'opération a cependant connu plusieurs rebondissements au point où certains doutent des réelles intentions du patron de Tesla. C'est jeudi que les festivités de la F1 commencent à Montréal, mais saviez-vous que la F1, c'est pas juste de la course automobile et des 5 à 7, c'est aussi une énorme organisation qui commence avec l'arrivée d'immenses cargos à l'aéroport Mirabel. Et mon collègue Mickey Guerrier qui est allé voir l'envers du décor sur le circuit Gilles Villeneuve.
Ah, le grand cirque de la F1. Bon, je sais que c'est pas une F1 et c'est pas le circuit Gilles Villeneuve, mais je voulais mettre dans l'ambiance du week-end de course. Et surtout, je voulais comprendre comment se déplace ce grand cirque de la F1. Parce que oui, nous, à Montréal, on attend le Grand Prix avec impatience année après année, mais ce grand circuit se promène dans 22 lieux différents. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de matériel à déplacer et le défi est encore plus grand quand les courses sont rapprochées. Environ 24 heures après la fin du Grand Prix de Bakou, il y a déjà un premier cargo qui arrive à Mirabel et qui a traversé 9000 km. Et ça, c'est le premier cargo d'une série de 8 avions de type 747 ou 777 qui va arriver à Montréal à l'intérieur de 3 jours avec environ 800 tonnes d'équipement qui vont partir de l'aéroport de Mirabel directement au circuit Gilles Villeneuve. Fou que ça, c'était à Bakou il y a à peu près 48 heures. C'est arrivé par l'aéroport. Puis là, c'est ici, prêt à être utilisé pour la course. Moi, honnêtement, je trouve ça fascinant de voir ça. Tout le matériel qu'on a vu arriver hier à l'aéroport de Mirabel, bien, il se retrouve ici et a commencé à être utilisé pour le montage des garages. Et le point culminant de tout ça, de tout ce grand cirque et du week-end, bien, ce sera la course de dimanche après-midi. C'est quand même assez incroyable. Tout ce qu'on voit à la télé, bien, on le voit en vrai, un peu comme une scène de film qui va se dérouler sous nos yeux.
C'était pas facile aujourd'hui pour Félix Auger-Aliassime en Allemagne à son premier match au tournoi sur gazon de Hall. Le Québécois a eu besoin de 2 h 12 min pour battre l'Américain Marcus Guerin en 3-7. Il a d'ailleurs affirmé avoir été déconcentré par la confrontation, mais demeure optimiste pour son prochain affrontement contre un autre Américain, Mackenzie McDonald. Un père sur 7 qui a en ce moment un enfant de moins de 18 ans serait en situation de détresse psychologique au Québec. C'est la conclusion d'un sondage mené par la firme Somme auprès de 2100 pères québécois. En cette semaine québécoise de la paternité, ma collègue Camille Lorrain-Desjardins s'est intéressée à ce sujet-là. Elle a rencontré un expert, mais également un père de famille qui lui a raconté comment il a été en détresse sévère dans le passé.
Un père sur 7, c'est 13 % de l'échantillon. On sait qu'au Québec, qu'il y a environ 1 million d'hommes qui sont pères d'un enfant de 17 ans ou moins. Ça veut dire 130 000 pères qui, aujourd'hui, sont en train de dire « ça va vraiment pas dans ma vie ». C'est beaucoup.
Moi, à Boisson, j'ai tout le temps voulu mourir. Okay? Puis je voulais tout le temps passer par les policiers. Parce que je ne pouvais pas faire ça à mes enfants. Le 14 juillet 2015, ça a pris le groupe tactique d'intervention pour arrêter l'état de crise. Tu sais, ici, les policiers, là, Ça a duré 14 heures, puis les policiers faisaient ce qu'ils pouvaient. En pensant à mourir, probablement que ça a fait quelque chose, je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. OK, mais ça a marché. J'étais en psychiatrie une semaine, à l'hôpital, parce que j'étais en prison. Ben, j'ai fait un bon choix, je suis allé en thérapie.
Après 2 ans et demi de pandémie, ben, on a eu l'occasion, durant cette période-là, de pouvoir aller se pencher sur la situation des enfants, sur la situation des parents. Sauf que dans ces enquêtes-là, on remarque que les pères sont souvent dans l'angle mort. Ce n'est pas juste la détresse des hommes individuellement. On parle aussi de la détresse qui percole sur les autres membres de leur famille.
Quand je revenais à la maison, j'avais mon enfant avec moi, mon bébé, qui avait 10 mois, je pense. Puis je courais dans la maison. Oups! Ben, je ne pouvais pas m'attendre à d'autres choses. Ça faisait des mois que je ne faisais plus rien. Fait que c'est là que j'ai appelé la maison de Gégène, t'as-tu une place? Mais je ne l'aurais pas faite pour moi. Je l'aurais faite pour mon petit bébé. Ben, ça y prend un toit, ça y prend la chaleur, ça y prend une sécurité.
Et donc ici, on arrive dans la salle de jeu des enfants et des ados de la maison Oxygène. Une maison Oxygène, c'est un organisme qui offre à la fois de l'hébergement et du soutien psychosocial pour les pères. Une grande partie des pères, en fait, arrivent dans les maisons Oxygène, souvent à la suite d'une séparation, une chambre dans laquelle le père peut recevoir ses enfants. Puis en plus de l'hébergement, on offre un soutien psychosocial. Donc chaque père qui est accueilli dans les maisons Oxygène bénéficie d'un suivi avec des intervenants.
Ça m'a apporté à m'ouvrir, à connaître un paquet d'émotions que je ne connaissais pas ou que je ne savais pas comment les nommer. Au point de vue des enfants, là, je te dirais que ce qui opère, là, des activités, des affaires de même qui recréent des liens. Ce que tu ne ferais pas toi-même ça parce que tu ne sais pas par où t'en aller.
Même si la jeune génération de pères s'engage davantage dans leur rôle paternel, vont être meilleurs pour exprimer leurs émotions, lorsque ça vient le temps de demander de l'aide, ils ressemblent beaucoup aux autres générations de pères. Donc, c'est difficile, c'est vu comme étant une faiblesse, c'est vu comme étant un geste qui est honteux à faire.
Un mot qui méritait les oreilles, c'était « aide ». Ça méritait les oreilles. Parce que probablement, l'orgueil mal placé, d'admettre que tu as besoin d'aide, c'est le pas le plus dur.
Et on poursuit avec notre collaboratrice et psychiatre, Marie-Ève Coton. Bonsoir, Marie-Ève.
Bonsoir.
Ce que je retiens du reportage de Camille, c'est en quelque sorte, c'est encore tabou parler de détresse psychologique chez les hommes.
Absolument. C'est vraiment des stéréotypes qui sont tenaces, les valeurs de la masculinité traditionnelle où un homme, pour bien des gens, ça doit toujours s'en sortir seul. Ça ne peut pas avoir besoin d'aide, ça ne peut pas avoir besoin de support. Donc, malgré que le temps qui passe, c'est quelque chose qui est encore là. Les hommes sont encore très réticents à consulter dans tout ce qui relève de la santé mentale. Et les hommes aussi ont moins de confidents que les femmes. Donc, aussi, dans leur réseau social naturel, ils ont souvent un réseau moins étendu et ils s'appuient moins sur leur réseau aussi pour obtenir du support.
Ils ne parlent peut-être pas de choses qu'ils peuvent considérer peut-être un peu plus intimes, un peu plus personnelles, leurs problèmes. Ce qui fait, parce que c'est souvent l'entourage qui va dire... Je pense que tu as besoin d'aide, je pense que tu devrais consulter. Ça vient souvent de l'entourage ou des proches. Alors, si on n'a pas d'amis proches à qui parler, ben peut-être qu'on s'en va un peu seul avec notre problème.
Absolument. Les hommes, et c'est vrai, quand on regarde les études sur la détresse et la dépression majeure chez les hommes, ils vont avoir tendance à s'isoler. Parfois même, ils peuvent devenir hyperactifs dans le sport, dans le travail, dans des activités sexuelles. Donc, ils ont souvent de la détresse qui est masquée de toutes sortes de façons parce qu'ils ne vont pas avoir ce réflexe d'appeler un proche, de pleurer, de dire qu'ils ne vont pas bien ou de demander de l'aide professionnelle. C'est beaucoup moins fréquent chez les hommes que chez les femmes.
Parlons-en de demander de l'aide professionnelle. On a déjà parlé ensemble des problèmes d'accessibilité aux services de santé mentale. Là, il y a le CIS de la Montérégie-Ouest qui lance un projet pilote de consultation unique en psychologie, c'est-à-dire que certaines personnes vivant peut-être un moment difficile, par exemple, un père de famille, pourraient aller consulter pour une seule séance rapidement un psychologue. Qu'est-ce que tu en penses?
J'ai beaucoup de réserves, un peu comme Mme Groulx, la présidente de l'Ordre des psychologues, c'est-à-dire que De ce que je connais de la clinique, le bassin de personnes pour qui ce type d'aide-là pourrait être approprié est assez mince, parce que pour être capable de rebondir après une seule séance avec un psychologue, il faut d'abord être assez en santé psychologique et il faut peut-être être souffrant pour quelque chose de contextuel. Mmh. Mais le moindrement qu'il y a une détresse significative ou qu'il y a un stresseur qui est plus chronique ou qu'il y a un trouble mental, une seule séance, ça donnera pas. Ça va peut-être soulager un petit peu la personne, mais ça n'aura pas, à mon avis, un impact significatif. Donc,
pour pas que ça soit de grandes crises, pour pas que ça soit quelqu'un en crise, pour pas qu'on compte sur une consultation.
Non, si c'est en crise, souvent les gens ont besoin de pouvoir s'appuyer sur quelques rencontres. Puis quand il y a un trouble mental aussi à l'origine de ça, ça ne sera pas suffisant non plus.
Mais Marie-Ève, je vais faire l'avocat du diable. On parlait des hommes, des pères de famille qui veulent peut-être, qui ont de la misère à identifier leurs problèmes. Leur dire d'appeler pour voir un psychologue, eux autres, ils vont dire hey, « c'est une thérapie, moi, je ne m'embarque pas là-dedans, je n'ai pas ces problèmes-là ». Là, comme ça, une rencontre unique, est-ce pour justement identifier peut-être et après ça, diriger vers le bon endroit, est-ce que ça ne peut pas justement sauver des hommes?
Bien, c'est pas que je veux dire qu'il n'y a aucun bénéfice à tirer d'une approche comme ça. Peut-être que pour ces gens-là, le fait que ce soit une rencontre unique, ça peut être vu comme moins menaçant que... un suivi. Par contre, le problème, c'est que je vois vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de gens en attente et le type de problématique pour lequel les gens consultent en général, si je regarde ma carrière, dans combien de proportions des cas j'ai pu voir quelqu'un une fois et la situation était, somme toute, assez bien jugulée.
Ouais.
C'est très mineur, malheureusement. Je pense que c'est quelque chose qui, au niveau administratif, est intéressant. Au niveau clinique, oui, pour certaines personnes, mais il ne faudrait pas s'attendre à ce que ça gère les problèmes de santé mentale là, au Québec.
Je me souviendrai de ce que tu nous avais dit la dernière fois. Il faut investir davantage en santé mentale au Québec. C'est vraiment vers où il faut aller. Marie-Ève Coton, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On aurait pu en parler encore longtemps. Merci.
Ça m'a fait plaisir.
Bye-bye. Un glissement de terrain est survenu hier soir à Saguenay, une catastrophe naturelle qui n'est pas sans rappeler le glissement de terrain qui avait coûté la vie à 31 personnes non loin de là à Saint-Jean-Viennet, c'était en 1971. Par chance, cette fois-ci, personne n'a été blessé puisque les résidents de la maison qui a été emportée avaient déjà été évacués. Au total, les habitants de 21 résidences ont été forcés de quitter leur domicile pour leur sécurité. Il y a ma collègue Sarah Brosseau qui était sur place et elle s'est entretenue avec un résident évacué et également avec la mairesse de Saguenay.
On a entendu, c'est un gros vombrissement, là, tu sais, un bruit comme s'il y avait 10 roues des camions là, qui montaient la côte. Puis là, à un moment donné, là, moi, je suis sorti de la cave, puis j'ai dit, ça y est, c'est parti, ça vient de déclencher. Puis effectivement, en voyant ça, là, un nuage de poussière, moi, j'ai sorti par la porte arrière, puis... la maison, je me suis rendu compte qu'un bout de la maison qui était rendu presque sur mon terrain, presque sur ma galerie. Fait que c'est impressionnant.
C'est depuis déjà quelques semaines, le mur de soutènement là, qui, somme toute, en tout cas, a permis de diminuer les ravages. Donc, ce matin, on se lève, puis c'est triste, mais nos gens sont tranquilles.
En 2018, l'environnement n'avait pas une place prédominante dans la plateforme électorale de la CAQ. Au total, il y avait 18 promesses liées à l'environnement. Un chiffre assez faible quand on le compare avec la cinquantaine qui touchait l'économie à l'époque. C'est donc surprenant d'entendre François Legault dire la semaine dernière que son gouvernement est le plus environnementaliste de l'histoire du Québec. Mais est-ce que c'est la vérité? Raquel Fletcher a vérifié.
Lors de sa conférence de presse pour marquer la fin de la session parlementaire, François Legault a dit que son gouvernement est le gouvernement du Québec qui a fait le plus pour l'environnement.
Et je mets au défi qui que ce soit de prouver le contraire.
Monsieur le Premier ministre, défi accepté.
Je persiste et je signe. Il n'y a pas aucun gouvernement qui a un meilleur bilan en environnement, en lutte au changement climatique, que le gouvernement de la CAQ.
C'est une grande déclaration, effectivement. Elle est vraie au sens où c'est vraiment un gouvernement qui a fait beaucoup plus que les précédents en termes d'action pour l'environnement et les changements climatiques. Mais ce qu'il faut faire, c'est mettre en contexte. On part de tellement loin. Les gouvernements précédents ont fait si peu de choses. La barre n'était pas vraiment haute. En ce moment, il n'y a que 52 % des mesures pour nous permettre d'atteindre nos cibles de réduction de GES. Nos émissions ne baissent pas et n'ont pas baissé depuis le début du gouvernement Legault.
Quand je disais le Québec va devenir la batterie verte de l'Amérique du Nord, il y a du monde qui avait un petit sourire en coin en disant, bien, voyons donc. Bien, on a signé un énorme contrat avec New York. Ça va enlever l'équivalent d'1 million d'autos sur les routes. C'est quand même pas rien.
Ça, c'était vraiment un très bon coup du gouvernement. Le Québec a vraiment le potentiel de faire en sorte que beaucoup de nos voisins puissent réduire leurs émissions de GES. Alors, c'est vrai qu'on a de l'électricité propre qui est pas chère et pour l'instant, on a encore des surplus qu'on est capable de vendre ailleurs. Par contre, il y a une grande demande d'énergie qui n'arrête pas d'augmenter et nos surplus diminuent. On n'aura plus de surplus vraiment bientôt. Il faut qu'on diminue nos consommations, il faut qu'on consomme beaucoup mieux.
Transport collectif, il n'y a jamais eu autant de projets. Puis enfin, ça avance du côté de la ligne bleue.
On a parlé beaucoup d'électrification du transport. C'est un grand cheval de bataille du gouvernement actuel. Mais on voit, par exemple, il y a encore de lacunes. On voit encore les questions comme le troisième lien. Le gouvernement peut dire ce qu'il veut là-dessus. Ça va dans le sens contraire de la lutte des changements climatiques. Juste prenez en contexte. Le troisième lien coûte aussi cher que toutes les autres mesures du plan pour une économie verte mises ensemble.
On pourrait avoir l'impression qu'il y a un certain manque de volonté politique pour régler certains enjeux relatifs à l'environnement. Je pense que la qualité de l'air à Limoilou en est un bon exemple. On a parlé de transformer Dufresne-Montmorency, de transformer Laurentienne en boulevard urbain, par exemple. On a parlé de bonifier un peu certains éléments sur le plan de l'incinérateur, des pistes qui ont été ciblés au fil des années, donc qui auraient pu être déjà mises en place.
Il manque des politiques encore vraiment pour nous mettre dans la voie de la décarbonisation profonde qu'on a vraiment besoin.
Hubert Lenoir est une des têtes d'affiche des Franco de Montréal ce soir, mais il y a aussi des artistes issus d'un échange avec un festival en France qui vont se produire sur scène. On va faire le point avec notre collaborateur Seb Lauzon, qu'on retrouve à la place des festivals. Salut Seb.
Bonjour Michel.
Alors, parle-nous un peu de cet échange avec un festival français. C'est quoi, ou juste l'entente?
Bien, en fait, les Francofolies de Montréal le fait depuis assez longtemps avec les Francofolies de La Rochelle pour, entre autres, le prix Félix Leclerc, ce qui fait en sorte qu'on permet à des artistes français de se produire ici. Et la même chose pour les artistes québécois. Dans ce cas-ci, c'est un peu différent, mais c'est encore une fois un échange Canada-France, en fait, Québec-France dans ce cas-ci.
Bon. Et tu as eu l'occasion de discuter avec une des artistes qui sera sur scène ce soir.
Amélie Oni, qu'on connaît aussi sous son nom réel, c'est-à-dire Amélie Larocque, qui a entre autres écrit des chansons qui ont remporté des prix comme la chanson populaire de l'année en 2016, Ton départ, chanté par Marc Dupré. Bien, sur scène, son nom, c'est Amélie Laoni et elle fait partie de ces 7 artistes qui se retrouveront sur la scène Belle derrière moi pour le spectacle La Traversée. Et elle nous a expliqué un peu comment ça s'est fait pour faire partie de ce plateau d'artistes. Amélie Laoni, tu es ce soir sur la scène Belle dans un spectacle qui est un échange entre le Québec et la France ici au Franco. D'abord et avant tout, comment vous avez été sélectionnée pour faire partie de ce plateau-là?
On a été sélectionnée grâce à nos équipes. On soumettait dans le fond notre projet. Il fallait que l'équipe avec laquelle on travaille soit crédible au niveau des relations pro là-bas. Il fallait aussi que le projet ait une résonance européenne, que ça puisse se développer en Europe. Fait que moi, j'étais vraiment contente d'avoir été sélectionnée, évidemment.
Intéressant. Pour elle, dis-moi en terminant, à quoi on s'attend pour le spectacle d'Hubert Lenoir ce soir?
J'aurais envie de te dire que peu de gens, même son équipe, sait à quoi s'attendre pour ce soir. On sait qu'il a utilisé toutes sortes de systèmes pour enregistrer son plus récent album. Entre autres, il disait avoir avalé des micros. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner ce soir. On aura l'occasion de s'en reparler certainement aux 22 heures. Mais belle surprise et il y aura du monde, c'est sûr et certain, pour assister à ce spectacle.
Tu seras sur place. Bye-bye, Seb. Aujourd'hui. Bonsoir Sabrina.
Salut Michel.
On parle beaucoup d'inflation, du coût de l'épicerie par exemple qui augmente. Mais contrairement à la croyance populaire, ce ne serait pas nécessairement plus cher de consommer, manger québécois.
Oui, manger local. Donc selon une étude de l'Université Dalhousie, donc dans le fond, il y a eu une analyse de 134 produits locaux chez 5 grands détaillants en alimentation. Et ils disent que 70 % des aliments étudiés, bien, ça ne coûte pas nécessairement plus cher de les acheter s'ils viennent du Québec ou qu'ils viennent de l'extérieur. Alors c'est quand même encourageant parce que tu sais, on a quand même cette croyance-là de dire dire que ça va coûter plus cher, mais non, grâce à cette étude-là.
Bon, il faut bien en parler et consommer davantage québécois maintenant. Mm-hmm. Maintenant, on va aller à l'étranger. Il y a une vague de chaleur qui touche des pays d'Europe, entre autres...
L'Espagne.
C'est ça que j'allais dire, l'Espagne.
Ouais. Fait extrêmement chaud, 43 degrés Celsius aujourd'hui, et... imagine-toi. Donc, c'est super chaud, c'est 6 degrés de plus que les normales saisonnières. La France aussi, qui est également touchée par la chaleur accablante, on parle de 36 degrés Celsius à Marseille. Et sinon, ce soir, ce qu'on va surveiller au fil de 22 heures, tu sais, il y a des données hyper alarmantes pour ce qui est de la DPJ. On va en parler avec Nancy Audet, qui est fille de la DPJ et qui est une ancienne journaliste.
On regarde ça à 22 heures. Merci beaucoup, Sabrina.
Ça fait plaisir.
Alors voilà, là-dessus, excellente soirée. On se retrouve demain, bien sûr, avec toute l'équipe de 17h. Bye-bye.